Gloire à l'Éternel. Nous sommes à notre peut-être cinquième ou sixième séance d'étude de la parole de Dieu sur cette thématique très concrète, hein, très connue aussi de plus d'un, en l'occurrence la thématique de l'Église. Depuis qu'on a commencé à parler de l'Église, nous avons été parfois un peu théoriques quand on avait quelques éléments de doctrine, d'approche, mais le Seigneur nous a permis d'être à la fois, en tout cas de mon point de vue, je ne peux pas être juge à la fois, mais quand même, aussi pratique, hein, parce que la thématique de l'Église, elle est conceptuelle, mais en même temps, elle est très concrète et elle est très pratique pour la vie chrétienne. Une bonne compréhension de qui nous sommes, hein, de notre identité, de notre origine, de comment nous sommes façonnés, de notre fondement et du fondement de notre foi, c'est toujours très recommandé. Hein, je répète, une bonne pratique de qui nous sommes, parce que au demeurant, c'est ce que nous faisons, parce que nous sommes l'Église et nous étudions l'Église. Donc, nous cherchons à comprendre qui nous sommes, notre nature, notre caractéristique, notre identité, notre origine, notre fondement, hein, en tant qu'entité spirituelle. Et c'est toujours bon, parce que si nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes faits, nous ne pouvons rien faire entre les mains du Seigneur, voyez-vous? Donc, c'est important, ça fait partie de ce que Dieu veut que nous sachions qui nous sommes. OK? Alors, c'est de là qu'est venue l'idée, eh bien, d'étudier cette thématique dans la congrégation, ajoutée aux connaissances que vous avez déjà sur le sujet. Alors, c'est ça un peu le sens de la démarche. En sorte que nous avions vraiment regardé pas mal de choses pour nous amener à cela. On a regardé les contours, un peu d'histoire de l'Église à la naissance, hein, à la Pentecôte, d'une manière formelle, d'une manière officielle. Nous avions regardé, nous avions considéré le fait que depuis le Jardin d'Éden, Dieu a commencé à se façonner un peuple pour sa gloire. Le projet a continué dans l'Ancien Testament, dans l'appel d'Abraham, jusqu'à la venue du Christ. Le Christ lui-même allait promettre, eh bien, de bâtir son Église. Et il se présente comme étant le fondement aussi de l'Église. Et un peu plus tard, les saints apôtres vont aussi se présenter comme étant le fondement de l'Église. Nous aurons quelque chose à dire là-dessus, si le Seigneur nous prête vie, d'ici la semaine prochaine, que l'Église est fondée sur les apôtres et en même temps sur le Christ. C'est l'Église du Christ et en même temps c'est l'Église apostolique. Est-ce qu'il y a chicane entre les saints apôtres et le Christ? Vous posez la question, c'est y répondre. Il n'y en a pas. Donc, il faut plutôt chercher à comprendre ce double fondement, hein, de l'Église, cette double fondation de l'Église. L'Église a une double fondation, une fondation christique et une fondation apostolique. Il n'y a pas de division entre les deux. C'est plutôt, il faut chercher à comprendre, comme je l'ai dit, à distinction. Et on y reviendra si Dieu veut. Donc, tout ça, c'était pour vous dire que c'est ce que le Christ a promis. Et parce que ça fait partie du projet de Dieu le Père, qui lui a donné comme époux et de l'Église, et comme chef de l'Église, comme la tête de l'Église. Donc, le projet a commencé dans l'Ancien Testament sous forme du peuple de Dieu, donc une sorte d'Église avant le nom, n'oubliez pas cela, on en a parlé amplement. Et finalement, nous avons vu ce qui a été la fondation officielle, ultime, formelle de l'Église dans à la Pentecôte, et j'avais expliqué pourquoi c'est à la Pentecôte que c'est arrivé aussi. On a réglé tout cela ensemble, et tout cela nous a amené, dimanche, mercredi dernier, à considérer à la mission de l'Église. Je sais que j'avais dit d'autres choses encore, mais s'il y a pas d'enregistrement, malheureusement, pour toutes les séances passées, on a connu quelques déboires d'ordre technologique, et technique aussi, technologique et technique aussi. Alors, me voilà. J'espère que vous avez pris des petites notes. Comme ça, si vous voulez vous y référer pour vous rappeler des choses, vous pourrez le faire. Et nous avions commencé à considérer mercredi dernier, disais-je, la mission de l'Église. On a vu déjà deux éléments de mission, à savoir glorifier Dieu, hein, glorifier Dieu, servir Dieu, hein, louer Dieu comme étant un premier élément. Et le deuxième élément de mission, de mandat, d'objectif, de finalité que Dieu a sur la vie de l'Église, donc sur vous et moi, non pas sur les quatre murs, on a déjà vu amplement que nous sommes l'Église. Individuellement et collectivement, nous sommes l'Église. Comme Église locale, comme Église individuelle, comme Église, comme membre de l'Église universelle, nous sommes l'Église. N'oublions jamais cela. Ça aussi, j'en ai parlé. Donc, le projet de Dieu sur notre vie, c'est glorifier Dieu, c'est louer Dieu, c'est servir Dieu. On a vu quelques formes que la gloire de Dieu, la louange à Dieu, le service de Dieu peut prendre. Le deuxième élément de mission qu'on a vu, c'était l'édification des saints. Donc l'Église existe pour édifier les saints, c'est-à-dire pour bâtir la vie spirituelle des saints, pour construire la vie spirituelle des saints. Hein? Dans la formation en particulier, la formation formelle comme celle qu'on est en train de faire là, et l'étude biblique, dans les exhortations collectives, dans les exhortations individuelles, quand vous me parlez, quand je vous parle de Jésus, de notre espérance ensemble, de la foi, des doctrines, quand vous m'encouragez à une vie de sainteté, de sanctification, de consécration, de prière, de louange, d'adoration, d'amour, etc. Eh bien, là aussi, c'est une manière pour nous de nous édifier les uns les autres. Et à l'édification venant de l'activité de ceux qui ont un appel spécifique, comme les pasteurs, les enseignants, les docteurs, mais aussi à l'édification. Mais quand vous me passez un coup de fil, mais quand on est ensemble à l'église, on est en train de jaser de l'évangile. Et vos témoignages aussi, vous m'édifiez aussi à travers vos témoignages. Quand vous me racontez ce que Dieu fait dans votre vie ou dans la vie des gens que vous connaissez, que vous avez rencontrés, ou des histoires que vous lisez dans des journaux, etc. Donc, quand vous témoignez de l'Évangile, eh bien, à moi, vous m'édifiez aussi. Donc, bien comprendre le sens du terme édifier dans ce cas-là, dans ce contexte. Donc, je n'aurais même pas besoin de revenir sur les passages qu'on avait considérés pour parler de ces éléments de mission, de mandat, d'objectif ou de finalité de l'Église. Donc Dieu était très intentionnel dans le don de l'Église à Jésus. Dieu était très intentionnel dans le don de l'Église au monde comme lumière, comme sel, mais aussi l'un envers l'autre. Dieu était très intentionnel dans le sens où Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a bâti l'Église parce qu'il a des projets glorieux, des projets extraordinaires, immenses et grandioses sur la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un troisième élément de mission pour l'Église. Eh bien, un troisième élément de mission que l'Église a, et c'est la sanctification. L'Église a pour mission de se sanctifier. L'Église a pour mission de se purifier. Vous pouvez l'appeler comme ça. Bien important de comprendre cela. N'oubliez pas, non? Glorifier Dieu, édifier les saints et aussi se sanctifier pour Dieu. Ah, Dieu nous a sanctifiés et il nous appelle à nous sanctifier. Sanctifiez-vous. Sanctifions-nous. Hein? Ou alors purifions-nous. Il nous a purifiés, il nous a lavés dans le sang de l'agneau et il nous demande de nous purifier, hein, d'être ce qu'il a fait pour nous. Et le Christ nous demande d'être ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande de faire ce qu'il a fait pour nous, en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte. Et c'est bien important. Mais en quelque sorte ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité. C'est plutôt un travail à deux. Originellement, à la base, au salut, à la transformation divine, spirituelle, le travail est fait. Tout comme la régénération, nous avons été régénérés et nous sommes appelés à être régénérés jour après jour, hein, de jour en jour. C'est bien important de bien comprendre cette dynamique-là de coopération, de travail avec Dieu, hein, d'être ce que Dieu a fait, de marcher dans ce que Dieu a fait. Voilà. Et Éphésiens 5, verset 26, nous ouvre les yeux, hein, nous indique ce mandat, cette mission de l'Église. Lorsque Saint Paul dit que le Christ s'est donné lui-même pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Donc, le travail vient de Dieu. Et l'Église est appelée à marcher, eh bien, dans ce que Dieu a fait, comme je l'ai mentionné. Et le Père accomplit cette purification. Il va continuer à le faire dans la vie du croyant, d'après Jean chapitre 15, le verset 2. Regardez comment l'Écriture nous enseigne ce travail, eh bien, de purification qui se poursuit dans la vie du croyant, dans Jean chapitre 15, le verset 2. Il est écrit, tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, hein, il la retranche. C'est Jésus qui parle. Et en parlant de Dieu le Père, il la retranche. Un travail d'émondage, hein, un travail de purification qui se poursuit dans la vie et avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Il va le faire de différentes manières. Il va le faire par des prières répondues et par des prières exaucées. Il va le faire par des prières non exaucé, il va le faire aussi par des épreuves, ce travail de purification, d'émondage. Il le retranche et tout savant qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits, l'émondage. Voilà, et parfois Dieu le fait, ce travail, par le châtiment. Hein, quand je pêche, et Dieu qui ne me punit pas, mais qui me forme. Hein, pour nous, il n'y a pas de punition, il y a formation, il y a châtiment. Et Dieu qui me tape, qui me donne un coup de fouet pour m'attirer à lui, hein, pour m'ouvrir les yeux spirituels. Et ce travail de purification qui a été fait à la base se poursuit ici. Et le chrétien est appelé à collaborer à ce travail. C'est dans ce sens-là que le chrétien se purifie lui-même. C'est en collaborant avec Dieu pour que Dieu continue de le purifier, de le sanctifier dans sa parole et à d'autres manières que nous sommes en train de voir. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 32 nous dit, mais quand nous sommes jugés, voyez-vous, nous sommes châtiés par le Seigneur. Okay? Quand nous sommes jugés, on parle de purification de l'Église. Okay? N'oubliez pas le mandat, la mission de la purification. Donc, notre partie dans ce mandat-là, c'est de collaborer avec Dieu. Pour que Dieu travaille en nous, faut continuer cette œuvre de purification. Et cette œuvre qu'il a commencée, il veut l'amener à la perfection. Donc, c'est là que nous sommes. Alors, je reprends 1 Corinthiens 11, le verset 32, semble nous enseigner cela. Quand Paul dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, voyez-vous, et afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez-vous, est très important de comprendre cela. Et Hébreux 10, verset 12, 12, pardon, verset 10, nous montre la même chose. Nos pères nous châtient, hein, pour peu de jours, parlant de nos pères humains, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu, lui, nous châtie pour notre bien, hein, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, la mission de Dieu correspond à l'intention de Dieu sur l'Église. C'est une mission, c'est un élément de mission de purification. Bon, il y a aussi une épuration que l'Église locale doit faire par l'exercice de la discipline, selon Matthieu chapitre 18, le verset 17. Bien important de comprendre cela. L'Église primitive, eh bien, donne beaucoup d'exemples de ce travail de purification. Que l'Église doit entreprendre en tant qu'Église locale et lorsque, eh bien, l'Église applique la discipline d'Église contre, eh bien, ceux qui pêchent dans les, ceux qui pratiquent le péché connu. Et lorsque l'Église exerce la discipline, eh bien, l'Église exerce sa mission de purification en collaborant avec Dieu, en se servant des instructions de Dieu, de la parole de Dieu pour appliquer, eh bien, la discipline contre les hérétiques, par exemple, contre les immoralités, par exemple, et également contre d'autres péchés qui pourraient paralyser, eh bien, la vie de l'Église. Frères et sœurs, l'apôtre Paul a ordonné aux frères et sœurs de Philippe de s'intéresser à toute connaissance profitable. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, donc tout ce qui est pur, hein, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, lorsque l'Église, eh bien, s'applique à cette discipline que nous trouvons ici ou dans les autres cas qu'on a mentionnés, collaborer avec Dieu pour sa purification, pour sa pureté, pour sa sainteté, eh bien, l'Église est dans la mission de Dieu pour sa vie, qui est la purification. Et ça, à n'en pas douter, j'aurais peut-être dû commencer avec cet élément de mission que vous connaissez très bien, qui est, eh bien, l'évangélisation. En plus d'exister pour glorifier Dieu, en plus d'exister pour édifier les saints, en plus d'exister, en plus d'être fondé, d'être né pour se purifier, pour se garder pur pour Dieu, pour collaborer à Dieu dans l'œuvre de purification qu'il continue dans notre vie, eh bien, l'Église est appelée à faire connaître l'amour de Jésus au monde. Hein, l'Église existe pour, le mot le plus courant que nous avons en commun, c'est l'évangélisation. L'Église a pour but d'évangéliser le monde, hein, de saler le monde, d'éclairer le monde, d'illuminer le monde. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu donne cet élément de mission à différents endroits de la parole. Depuis l'Ancien Testament, Israël lui-même était considéré comme la lumière des nations. Vous vous rappelez, comme témoin de Dieu auprès des nations. Donc, ce n'est pas une mission qui est nouvelle. Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, l'Église avant la lettre, l'Église avant le nom, hein, en l'occurrence, Israël, à travers ses différentes étapes, hein, était déjà considéré comme un témoin de Dieu, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa puissance, de son amour, de sa fidélité, de sa justice, etc. Vous connaissez votre Bible. Eh bien, on voit que dans le Nouveau Testament, avant même que l'Église soit née officiellement à la Pentecôte, mais c'est le même mandat, la même mission, faire connaître Dieu au monde. Hein. C'est c'est l'outil, c'est le miroir de Dieu. Hein. L'Église est le miroir de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dit Jésus en Matthieu 28 à ses disciples, au verset 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, hein, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, hein, on est dans l'édification maintenant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, tel est notre mandat. Mais vous aurez remarqué que cette même responsabilité, nous l'avons ailleurs dans les autres évangiles. Par exemple, dans l'évangile de Marc, où Jésus dit, allez par tout le monde, hein, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il y a des étudiants de la Bible qui disent que cette mission, c'est la première, telle autre, c'est la deuxième, telle autre, c'est la troisième. Vous aurez remarqué, moi, je ne fais pas de catégorisation, ou bien je n'établis pas de hiérarchie dans les missions, dans ces éléments de mission. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'on ne regardera pas nécessairement parce que pour moi, ce qu'on a ici, ça résume pas mal globalement la mission de l'Église. Vous aurez remarqué que je n'établis pas de hiérarchie, hein, pour dire, ah, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. Elles sont toutes importantes. Une Église qui n'est pas pure ne peut pas évangéliser. Une Église qui ne se purifie pas elle-même ne peut pas évangéliser. Et de la même manière, une Église qui n'est pas formée, qui ne s'édifie pas, hein, ne peut pas évangéliser non plus. Une Église faible, une Église rachitique, une Église qui est cata, il n'est pas capable d'évangéliser non plus. Donc c'est pour ça, moi, je n'établis pas de hiérarchie. Ils sont tous importants, ces éléments de mission-là. Tout simplement, ils sont tous importants. Oui, ils sont tous importants, ces éléments de mission-là. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. J'ai déjà dit, quand je parlais du royaume de Dieu, je le disais. Il y a d'autres occasions dans l'Église, je le dis. Si on est chrétien, puis on passe un mois, hein, une semaine sans parler de l'Évangile à quelqu'un, il y a un problème. Hein, je vous l'avais déjà dit. Et quand je m'en vais prêcher ailleurs, je le dis. Quand je me lève, je dis, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Que je lui dise une parole, peu importe ce qu'il fera de cette parole-là. Mais si un chrétien passe une semaine sans parler de l'évangile à quelqu'un, il y a un problème. Même s'il y a à Montréal, même si au Québec actuellement, les gens ne veulent plus entendre parler de ça, il y avait tellement de gens dans le passé qui ont sali l'image de l'Église. Il y a toutes les histoires avec l'Église catholique romaine au Québec. Il y a un dégoût, il y a un refus, il y a une révolte. Face à tout ce qui est saint, à tout ce qui est sacro-saint, à tout ce qui est évangélique, à tout ce qui est biblique, je comprends. Mais prions, prions que Dieu nous donne une parole, prions que Dieu mette quelqu'un sur notre chemin, et prions que Dieu nous donne l'audace, la hardiesse, et pour être capable, l'amour, la douceur, et pour être capable de glisser un petit mot à une personne que nous rencontrons dans la journée, si elle a déjà, si elle connaît déjà le message, tant mieux. Mais nous aurons accompli notre journée. Notre journée aura été faite dans le Seigneur. C'est très important parce que ça fait partie de notre mission. Et dans l'évangile de Luc, nous avons la même vocation qui est dégagée. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Voyez-vous, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, c'est le Christ, et c'est le Christ qui parle. Luc chapitre 4, Luc chapitre 24, versets 46 et 47. Et l'évangile de Jean n'est pas en reste par rapport à cet élément de mission que nous avons en tant qu'Église qui consiste à proclamer eh bien, le salut en Jésus-Christ ou alors à évangéliser ou alors à parler de l'amour de Dieu au monde. Et je vous lis une partie du verset 20 et du verset 21 de Jean chapitre 20. Et la paix soit avec vous, dit Jésus à ses disciples enfermés dans la chambre haute. Et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voyez-vous, je fais exprès dans le Seigneur, à titre exprès veut dire, je choisis, c'est ça que ça veut dire ici. Je choisis de vous lire les quatre évangiles. Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean. Dans les quatre évangiles, nous avons cet enseignement sur le fait que nous avons pour mission, hein, voyez-vous, les quatre évangiles nous parlent de cette responsabilité qui est nôtre, eh bien, de proclamer l'évangile aux nations. Hein. On proclame l'évangile aux nations de différentes manières, on le verra. Hein. La grande mission que Dieu nous donne, eh bien, c'est d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Hein? Comme j'ai déjà dit, quand il m'est arrivé d'animer des formations, bien peut-être une séance de formation à l'évangélisation dans l'Église, eh bien, comme je l'avais dit, la Bible ne nous ordonne pas de convertir le monde. Ah, bien important. Et quand les gens ne comprennent pas la mission de l'Église, ils se découragent. La Bible ne nous ordonne pas de convertir le monde. La Bible nous ordonne d'évangéliser le monde. Ah, aujourd'hui, vous êtes sortis, il n'y a personne qui voulait vous entendre, vous parler, vous écouter, et alors vous êtes découragés, vous ne voulez plus évangéliser. Vous avez abordé telle personne, puis l'accueil n'a pas été favorable, et vous êtes fâchés contre vous-même. Vous dites à quoi ça sert d'évangéliser? Ne vous y méprenez pas. Votre rôle, ce n'est pas de convaincre la personne. Si vous la convainquez, tant mieux. Votre rôle, c'est de lui parler. Les textes que je vous ai lus là n'ont pas mentionné conversion. Vous, vous semez. Vous parlez de l'amour de Jésus. Vous parlez de la mort de Jésus, de sa résurrection pour le pardon des péchés de l'humanité, de ceux qui croient. Votre responsabilité, ce n'est pas de convertir les gens. Alors, ne vous découragez pas. Vous devez vous décourager si vous ne parlez pas. Mais quand vous parlez, puis vous n'avez pas d'écho, vous n'avez pas à vous décourager. Bien important de comprendre cela. C'est ça, c'est de là que vous, à part le Saint-Esprit de Dieu, qui est la source ultime de la force du chrétien pour exercer ce mandat, cette mission, eh bien, votre force, c'est de comprendre la parole. Hein? Votre force, c'est de comprendre la parole. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert l'enseignement. Voyez-vous? Donc, n'oubliez pas ça. L'Église a une dette envers le monde. Et cette dette-là ne vient pas du monde. Cette dette vient de notre Dieu. Donc, nous sommes obligés de donner au monde cette occasion qui est celle d'entendre l'Évangile par nous-mêmes. C'est nous qui sommes les témoins. Dieu a dit à Israël, c'est vous qui êtes mes témoins. Le Christ dira la même chose dans le Nouveau Testament à ses disciples. C'est vous qui êtes mes témoins. Alors, nous sommes leur chance, entre guillemets, hein? Ou alors nous sommes l'occasion par laquelle. C'est l'occasion unique. L'Église est l'occasion unique que le monde a, hein, de voir Jésus-Christ ou d'entendre parler de Jésus-Christ. Quand nous disons l'Église, c'est l'oratoire, c'est Sarepta, c'est Ottawa, et c'est Sego, c'est Edzer, c'est Nicodème, c'est Tamar, c'est André, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Elta, c'est à qui on en connaît, tout le monde, tout le monde, c'est nommé là. C'est l'Église dans sa collectivité et l'Église dans son individualité. La plupart du temps, le travail doit se faire à ses différents paliers. Hein? Le travail doit se faire au palier de l'Église individuelle et le travail doit se faire au palier de l'Église collective. N'oublions pas. Donc, l'Église collective, l'Église locale, peut organiser des activités d'évangélisation formelles, collectives, globales, communautaires pour tout le monde. Comme l'adoration, comme la prière. On le fait ensemble, on le fait seul. Donc, c'est la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est la même chose pour l'évangélisation. Il y a les campagnes, il y a les efforts que l'Église font. En tant qu'Église, tout le monde ensemble doit accompagner les leaders. On ne veut pas avoir juste les diacres, juste le conseil spirituel, juste les têtes de pont, les responsables de femmes, les responsables d'hommes. On veut voir toute l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est au courant de sa mission. Bon, il y en a qui sont capables, mieux que d'autres, de partager leur foi. Il y a une question d'appel ou de facilité de langage, je comprends. Mais chacun peut faire un bout de chemin. J'ai déjà dit ça, hein, quand j'ai enseigné l'évangélisation à l'Église. Je disais que si tout le monde est capable de dire à l'autre, il y a tel spécial à tel endroit, mais tout le monde est capable de parler de Jésus à tout le monde. Ah, tu appelles un tel pour lui dire, ah, il y a un spécial à Costco, c'est telle affaire. Des fois, j'entends ma femme là, avec des amis là. Mais c'est ça, c'est à peu près. Vous voyez de quoi je parle. Dès que vous êtes capable de dire à quelqu'un, venez au Canada, venez à Montréal, ou à dégager quand même, bagaille pas facile, mais cependant, ou à finir par trouver du travail, ou à faire kishoy. Les choses ne sont pas faciles. Arrivez, venez, vous allez finir par trouver du travail. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Et comprenez-vous, dès que vous êtes capable de fonctionner dans la société, de parler, mais vous êtes capable d'évangéliser aussi. Bon, il y a une affaire d'expertise. Bon, il y a un niveau d'expertise que la connaissance, une connaissance formelle de la parole va donner à certains qui ont étudié la Bible, qu'à l'école pour ça, fait une maîtrise, font un doctorat, font un baccalauréat. Bon, je comprends, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu en plus, et surtout plutôt. Donc, on comprend qu'il y en a qui ont plus d'aisance, mais il n'y a personne qui ne puisse pas parler de sa foi, hein, de Jésus à une autre personne. Tout le monde est capable de le faire. Ne vous y méprenez pas, vous êtes capable, comme vous aimez le faire, et déjà l'oratoire. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Et pas oublier, n'oubliez pas, l'autre chose que j'ai dit, c'est que le travail se fait à deux niveaux, hein, au niveau collectif et au niveau individuel. N'oublions pas cela, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir parler de Jésus au monde. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Hein. Jésus, c'est le roi des rois, d'être capable de parler en son nom. Hein. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et alors, en raison de cela, allez, faites de toutes les nations. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le pouvoir du roi des rois avec vous. Alors, vous êtes vraiment capable de faire cette job-là, comme on dit dans la société dans laquelle eh bien, nous vivons. Tous ne répondront pas à l'appel, il est vrai. Il y en a qui vous mépriseront, il y en a qui vous regarderont de haut, il y en a qui vous regarderont avec dédain, avec mépris, hein, sans embâge, hein, sans cachette. Ils vont vous regarder avec mépris, avec dédain, mais vous faites votre travail dans le Seigneur. Lorsque vous allez arriver devant votre Dieu, il vous demandera, il vous posera la question, mais il saura déjà la réponse. Qu'avez-vous fait de la mission que je vous avais confiée d'évangéliser le monde? Et si vous avez parlé de l'évangile à 15 personnes en 40 ans de vie et chrétienne, Dieu le sait, mais il va vous poser la question pareille. Et alors, j'espère que nous n'aurons pas à rougir lorsque nous nous présenterons devant lui. Et à mes frères et mes sœurs, c'est notre devoir. Dieu appelle aujourd'hui, d'entre les païens, ce peuple qu'est l'Église. Hein, il nous appelle d'entre les païens. On va regarder ça tout à l'heure si Dieu veut. Si le Seigneur me conserve la vie d'ici la fin de l'étude, nous allons regarder ça. Dieu nous appelle du sein des ténèbres. Ouh, merci Seigneur. Dieu nous appelle du sein des ténèbres, du monde païen. Pour porter son nom maintenant aux païens, pour porter maintenant son nom au monde, aux incroyants, aux inconvertis, aux rebelles, aux mécréants. Quel privilège! Nous étions du nombre des pécheurs, du nombre des incroyants. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'être maintenant son porte-parole, son porte-voix. Et auprès des nations, moi là, je crois que c'est un privilège et je prie chaque matin que le Seigneur me fasse la grâce de faire un bout de chemin dans sa main, eu égard à ce mandat, eu égard à cette vocation, eu égard à cette mission qui est la mienne, mes frères et mes sœurs. Nous pouvons le faire aussi par des contributions à l'œuvre missionnaire. Ça, on le fait déjà. Hein? On le fait déjà en tant qu'église locale. Votre 10% à l'Union, là, ça sert à ça. Hein? On le fait déjà en tant qu'église locale. Hein. Envoyer 10% à l'Union à toutes les années, c'est à ça que ça sert. Hein. Et il y a cette partie-là, parce que nous savons que l'Union est versée dans ça, mais il y a tout le temps les affaires de contribution missionnaire à part aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est maintenant avec ça, mais nous le faisons déjà en tant qu'église locale. Mais si le Seigneur vous donne les moyens de le faire en individuel, il n'y a rien de mal à ça, si vous avez assez de moyens pour le faire. Donc, contribuer à des œuvres missionnaires. Hein. Il fut un temps quand les gens partaient en mission, leur église leur donnait des sous pour aller le faire. L'église dépêchait des gens, vous et moi. Il arrivera un temps où le Seigneur va nous bénir et nous prenons de l'argent pour envoyer des gens évangéliser. Ça, c'est un deuxième aspect. On le fait directement, individuellement et collectivement. N'oubliez pas, je résume, j'essaie de résumer un peu. On le fait directement, individuellement et collectivement. On contribue financièrement à l'œuvre missionnaire, directement, collectivement, hein, en tant qu'église locale, ou chacun dans son coin avec les moyens que le Seigneur nous donne. Et deuxièmement. Et troisièmement, nous le faisons en priant pour la mission. Hein? Tantôt, vous avez prié pour la mission. Quand vous priez pour les autres églises, en quelque sorte, vous priez pour la mission. Mais que nous puissions prier pour la mission aussi, c'est une autre manière de le faire, que ce soit la mission à l'interne, à notre église, ou la mission à l'extérieur, hein, par rapport à d'autres œuvres missionnaires que nous connaissons, à d'autres hommes ou femmes missionnaires que nous savons qui militent actuellement à temps plein à l'œuvre missionnaire. C'est une autre manière d'évangéliser, dans le sens où tu le fais indirectement. Tes prières contribuent à l'œuvre missionnaire. Tes sous contribuent à l'œuvre missionnaire et toi, tu fais l'œuvre missionnaire directement dans le métro, dans la maison, au travail, dans le quartier et un peu partout, on va dire dans vos sphères de vie respectives. C'est bien important. Je vais partager avec vous une blague. J'appelle ça une blague, mais ça m'avait accroché beaucoup hein, à la dernière retraite pastorale. Quand il y avait un pasteur, un leader, qui intervenait à la retraite pastorale et qui avait demandé à tous les pasteurs qui étaient là, nommez-moi, hein, 10 noms de voisins, 10 noms de vos voisins. Là, l'oratoire, je vous vois peut-être qui sourit. Nommez-moi 10 noms de vos voisins. Est-ce que vous connaissez le nom de 10 voisins? Il y en a qui sont plus curieux que d'autres, ou peut-être plus ouverts que d'autres, qui vont être capables de le nommer. Frères et sœurs, en vérité, là, ce n'est pas un test qui était facile, non? Et on s'adressait à des pasteurs, hein? Ce n'est pas un test qui était facile, non? À réussir, non? Donc, tu peux connaître, on fait salut de la main. Oui, ça dépend encore une fois de combien de temps vous vivez là ou. Mais d'être capable de les nommer, surtout ici, en Haïti, on connaissait tout le monde. En Haïti, là, tout le village, là, on pouvait se nommer les personnes, là. Je voyais mon père aller. Mais à l'étranger, les portes sont toujours fermées. On voit les gens un petit peu allaités au dehors, là. Bon, c'est pas facile. Alors, quand c'est pas facile, eh bien, c'est plus difficile d'évangéliser ces personnes-là, si même leur nom, vous les connaissez pas. Donc, moi, j'ai appris ça. J'avoue, je l'ai appris. Je l'ai appris en ce temps-là. Alors, je le partage avec vous. Voyez-vous, je partage avec vous ce truc. Depuis, j'ai commencé à m'informer des gens qui sont plus éloignés de moi dans le quartier, comment ils s'appellent, les propriétaires là. Alors, quand on commence à connaître leurs noms, mais il y a plus d'occasions, de possibilités de commencer à tisser un lien avec les voisins et puis pour leur parler de l'amour de Jésus. Bon, ils savent que vous êtes chrétien, ils vous voient sortir tous les jours avec vos Bibles en main. Hein, ils vous voient là, ils savent que vous êtes chrétien. C'est déjà un témoignage qu'ils le voient. Votre Bible est dans vos mains, vous partez à tous les dimanches, vous allez à l'église, etc. Mais si vous connaissez leur nom, c'est déjà un premier pas pour établir un pont et pour leur parler de votre vie avec Jésus, de ce que Jésus a fait, de comment Jésus a transformé votre vie, de comment Jésus vous a lavé, vous a sanctifié, vous a purifié, vous a rendu heureux. Eh bien, c'est vraiment une bonne chose à faire, mes frères et mes sœurs. Maintenant, nous allons regarder un autre élément de la mission de l'Église. N'oubliez pas, glorifier Dieu, édifier les saints. N'oubliez pas cela. L'Église existe pour glorifier Dieu, pour édifier les saints, pour se purifier pour Dieu, hein, ou bien pour collaborer avec Dieu dans son œuvre continuelle de purification de l'Église. Hein, et l'Église existe pour évangéliser le monde, pour témoigner de Jésus au monde, pour faire connaître au monde et le pardon des péchés en Jésus-Christ, l'amour de Jésus. Et maintenant, cinquièmement, l'Église existe, vous existez, vous êtes qui vous êtes en ce moment. Hein, on va voir la différence tout à l'heure, hein, entre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant, et qui fait de vous l'Église, hein, par le fait même. On va regarder ça pour terminer. Ça sera plus de la lecture que des commentaires, OK? On va juste lire des passages. Qui vous identifie à qui vous êtes tout à l'heure, si Dieu veut. Et cinquièmement, l'Église existe pour promouvoir le bien. Ah, l'Église existe pour promouvoir le bien. Ah là là, pour exercer la miséricorde. L'Église existe pour promouvoir le bien, pour exercer la miséricorde. Quel privilège, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, promouvoir la miséricorde. Nous sommes appelés à nous séparer du monde, il est vrai. Nous sommes appelés à nous séparer du monde, il est vrai. Mais nous sommes appelés tout aussi bien, tout en nous séparant du monde, hein, nous sommes appelés aussi à soutenir les causes justes, hein, qui se passent dans le monde. Ah, nous sommes appelés à collaborer, à coopérer, à promouvoir les causes justes, hein, qui se passent dans le monde, qui tiennent le monde à cœur, hein. Nous sommes appelés à contribuer à combattre la faim dans le monde. Vous vous rappelez? Nous sommes appelés à contribuer à combattre la faim dans le monde. Hein? Et on a parlé tout à l'heure de combattre par l'évangélisation, hein, la faim spirituelle, mais nous sommes aussi appelés, par exemple, à combattre la faim physique dans le monde. C'est une œuvre de miséricorde. C'est une œuvre de bien, de promotion du bien. Hein. Nous sommes appelés à participer à toute œuvre qui vise à préserver l'environnement, par exemple. Mais oui, c'est une cause juste, hein, la lutte, hein, au changement climatique. On sait qu'il y a des exagérations. Je pourrais prêcher tout un message là-dessus. Je pourrais faire tout un enseignement là-dessus pour voir les exagérations. Qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu ne dit pas là-dedans? Mais on sait que quand c'est équilibré, c'est une cause juste à laquelle l'Église peut participer. Hein? Une Église peut carrément investir de l'argent dans son coin, dans son quartier, dans son coin de pays pour aider à la lutte au changement climatique, ou à des campagnes, eh bien, de promotion, eh bien, de la protection de l'environnement, par exemple. Une église peut très bien participer à des causes qui visent à promouvoir la démocratie, à instaurer la démocratie dans certains coins du monde, dans certains pays dans le monde. Une église peut bien être appelée à contribuer à la promotion de la santé dans le monde. Quand l'église a les moyens, l'église multiplie des hôpitaux, des dispensaires, des cliniques, hein, ou alors, quand elle ne peut pas le faire seule, mais elle contribue à le faire. C'est dans ça que vous avez grandi. C'est dans ça que j'ai grandi, en tout cas moi-même. Hein? C'est ça que, parfois qui est à part la souveraineté de Dieu, mais c'est ça qui m'a mis là, c'est ça qui vous a mis là. C'est peut-être par là que Dieu a cheminé pour faire de vous un chrétien aujourd'hui. Vous vous rappelez quand les Américains, les Canadiens, les Belges, les Français ont laissé le beau pays, le pays très chic, de belles carrières, de belles carrières pour embrasser le ministère, pour aller évangéliser dans les fins fonds. Dans les fins fonds de la Croix-Périsse, dans les fins fonds de Terre-Neuve, dans les fins fonds de Verrettes, de Liancourt, de Caille, de Hakaye, hein, voyez-vous, c'est pas parti par des Haïtiens, ça. C'est parti par des gens qui ont compris l'importance, eh bien, l'hôpital de Limbé, l'hôpital de ci, l'hôpital de ça, collège Bird, telle école, voyez-vous. Donc, nous, on peut pas faire des choses comme ça. Alors, à on n'a pas les moyens. Mais si un jour votre pasteur vous dit, on va soutenir telle œuvre qui fait ça, vous ne devez pas vous fâcher, vous devez accepter d'évaluer vos moyens pour voir si vous pouvez envoyer un 5, 10 000 dollars, un 2 000 dollars, un 1 000 dollars, un 500 dollars. C'est de ça que je parle. On ne peut pas faire tout pour nous autres, là, juste nous-mêmes. Mais si le pasteur, si votre conseil d'église vous appelle à mettre un 600 dollars d'ailleurs, un 1 000 dollars d'ailleurs pour soutenir telle œuvre dans le quartier, ben c'est ça que ça veut dire. C'est de ça qu'on est en train de parler là, comme exemple là, pour rendre ça un peu plus concret là. On n'est pas en train de parler des choses théoriques là, des choses éloignées, ou bien forçons l'église Grenet qui fait, mais non. Les œuvres de développement dans notre quartier, c'est à envisager. Il va falloir qu'on envisage sérieusement. Et ce n'est pas nécessairement pour que les gens se convertissent. C'est d'abord pour faire le bien. S'ils se convertissent pendant qu'on le fait, tant mieux. N'oubliez pas cela. Parfois, les gens ne font rien. Ils disent, ah, depuis des années, on fait ça, puis ça n'amène jamais de gens à l'église. Ce n'est pas pour amener des gens à l'église que vous le faites. Vous le faites parce que vous êtes appelé à promouvoir le bien dans le monde. Vous le faites parce que vous êtes appelé à soutenir des causes justes, à aider des gens à être éduqués, à alphabétiser, à trouver un site internet, à apprendre à écrire le nom. Vous le faites parce que vous êtes appelés à faire le bien. C'est pas pour avoir des fidèles que vous le faites. Dieu le sait, ça peut établir un contact pour l'Église. Mais ne dites pas qu'est-ce que ça va donner d'abord en termes de nombre de fidèles. Il ne faut pas être calculateur quand on fait le bien. Il faut faire le bien pour le bien, juste sur la base de l'amour. Voyez-vous? Donc, c'est bien important que toute Église, pas juste non à l'oratoire, soit au fait, hein, de cette vérité éternelle, de cette vérité évangélique. La pratique de la charité n'a rien à voir avec faire membre d'une Église. On la pratique d'abord. On la fait d'abord. Si ça amène des gens, tant mieux. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Donc, c'est bien important de comprendre notre mission, cette partie, ce volet-là, ou bien cet élément de notre mission. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, dit Saint Paul, pratiquons le bien envers tous, hein, envers tous. Et bien évidemment, et surtout envers les frères dans la foi. Galates chapitre 6, le verset 10, mes frères et mes sœurs. Voyez-vous? Donc, l'enseignement est plus que évident. Hein, j'en ai parlé. L'enseignement est plus que évident à cet égard-là. Ne l'oublions pas. Si le Seigneur nous en parle, mais c'est parce qu'il veut que nous puissions le savoir, mes frères et mes sœurs. Il faut faire le bien. Jésus est notre meilleur exemple au niveau de la pratique du bien. Il parcourait les montagnes et les vallées. Il guérissait les malades, il exorcisait les démoniaques, vous vous rappelez? Et il donnait à manger à ceux qui avaient faim. Il est allé aux noces de Cana en Galilée. Il a pratiqué le bien. Lorsque ce couple, eh bien, au jour de ses noces, était au bord de la faillite à tous égards, faillite sociale, et en particulier, eh bien, on a vu que le Christ s'est penché sur la situation. Il a pourvu en vain pour redresser la situation de ces bien-aimés, oui, de ces bien-aimés-là qui a été vraiment au bord de la catastrophe. Il pratiquait le bien. Donc aujourd'hui, le Christ ne m'appelle pas à changer l'eau en vin, il ne m'appelle pas à nourrir, à faire des miracles avec une petite quantité de nourriture, mais cela ne veut pas dire qu'il ne m'a pas enseigné quant à l'œuvre sociale, quant à la promotion du bien. Il m'enseigne pareil. Je le ferai différemment parce que je suis dans un autre contexte. Hein? Je suis 2000 ans, plus de 2000 ans plus tard. Et puis, de toute façon, il a un mandat que je n'avais pas. Il est appelé pour un rôle pour lequel je ne suis pas appelé. Mais qu'à cela ne tienne, je peux continuer à reproduire, eh bien, l'œuvre de Jésus avec tout ce que j'ai nommé là, en tant qu'église locale ou en tant qu'individu. Ça dépendra. Comme je l'ai dit pour l'évangélisation, ça sera tout le temps. On le fait ensemble, en tant qu'Église, en tant que famille spirituelle, en tant qu'Église locale, puis on le fait chacun dans notre coin, selon les moyens que Dieu mettra à notre disposition. Mais c'est vrai pour la pratique du bien, c'est vrai pour l'adoration, c'est vrai pour l'évangélisation, c'est comme ça. Ensemble, en individuel, ensemble, en individuel, ensemble, en individuel. Donc, c'est bien important de comprendre, eh bien, cette réalité-là, mes frères et mes sœurs. Et cela dit, j'aurais quelques éléments d'application à partager avec vous. Vous l'avez promis. Hein? Je vois, il manque 4 minutes. Je vous avais promis de partager quelques éléments d'application avec vous. Et non, non, c'est vrai, c'est très important. Priez que Dieu nous ouvre la voie. Et on n'a pas déménagé encore, on est encore sur le plateau Mont-Royal. Vraiment, priez que Dieu nous donne une bonne compréhension de cette promotion du bien-là, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire dans le quartier. Pas nécessairement pour avoir des fidèles, encore une fois, je vous dis. Sinon, vous allez me dire, pasteur, ça ne vaut pas la peine. Vous en avez vu qu'il n'a rien apporté. Je vous comprends. Mais ce n'est pas pour avoir des fidèles. C'est pour faire le bien. Essayons nous gagner un quartier. Il faut nous faire un café avec vous. Il faut nous faire un café pour vous, OK? En tant qu'église. Et bien important. Mais voilà. Maintenant, je vais terminer avec ceci. Je vous avais dit, on est appelé à réfléchir sur qui nous sommes, sur notre identité. Ah, je n'ai pas oublié. Vous pensiez que j'avais oublié ma promesse? Je n'ai pas oublié dans le Seigneur et par sa grâce. D'abord, commençons avec ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit ceci. Regardez-moi l'oratoire. Si quelqu'un est en Christ, hein, on réfléchit sur qui, sur qu'est-ce que c'est que l'Église. On est encore là-dedans. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais d'autres traductions disent, il est une nouvelle création. Ça montrait que tout a changé complètement. Hein? C'est pas juste créature, c'est création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Voilà ce qui fait de quelqu'un chrétien ou alors église. Voilà ce qui fait de quelqu'un église. C'est quelqu'un qui est en Christ, qui est une nouvelle création en Christ, et par le fait même, les choses anciennes concernant sa vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà une définition biblique de l'Église. Hein? L'Église, c'est toutes choses nouvelles. L'Église, c'est toutes choses nouvelles. Maintenant, je vous donne un rafale, sans commentaire, OK? Sans commentaire, sans méditation, juste en lecture. Je vous donne un rafale, quelque chose. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle comme ça? Et toutes choses, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous donne bibliquement, hein, sans commentaire, quelques exemples de nouveautés, de transformations, de choses qui sont devenues nouvelles. C'est ou changer de race, ou changer de nation, ou changer de statut, ou changer de toute bagaille. Regardez, regardez bien, vite, vite. Romains 6, versets 20 à 22. Voici un exemple de choses qui a changé. Hein? Toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 6, versets 20 à 22. Paul s'adresse aux frères et sœurs de Rome en leur disant ceci. Vous étiez esclaves du péché, vous étiez, hein? Étiez, donc vous n'êtes plus ça. Vous portiez, hein, l'imparfait, vous portiez alors des fruits dont vous rougissez. Rougissez, c'est dont vous aviez honte aujourd'hui, dont vous rougissez aujourd'hui, dont vous avez honte aujourd'hui. Et Paul dit, la fin de ces choses, c'est la mort. Regardez, frères et sœurs, dans le même passage, voici ce que Paul dit, voici une chose qui est devenue nouvelle. Étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, le même Paul qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, mettons exemple de choses anciennes qui sont passées et mettons exemple de choses qui sont devenues nouvelles. Vous étiez esclave du péché, hein? Vous portiez des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, vous et moi, hein? Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ça, c'était moi avant d'avoir été église. OK? C'est moi avant d'avoir été église. C'est moi avant d'avoir, avant que toute chose soit devenue nouvelle. Et maintenant, je suis affranchi du péché. Gloire à notre Dieu. Romains 7, versets 5 à 6. Nous étions dans la chair, les passions des péchés agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Dans le même passage, frères et sœurs, même Romains 7, verset 5 à 6, là, Saint Paul dira, nous avons été dégagés de cette loi, nous servons dans un esprit nouveau. Deuxième exemple de chose qui est devenue nouvelle, gloire à notre Dieu. Et dans Romains 11, verset 30, Saint Paul dit, vous avez désobéi à Dieu, et dans le même passage, il dit, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Voici une chose devenue nouvelle. 1 Corinthiens 6, versets 10 à 11. Vous étiez quelques-uns de vous impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, voleurs. Bon, pas vous là, bien entendu, mais quand même. Cupides, ivrognes, outrageux, ravisseurs. Il dit quelques-uns d'entre eux autres là. Bon, ça, c'est peut-être pas vous et moi, pas vous. Hein? Mais, regardez bien, dans le même passage, il dit, voici une chose nouvelle. Mais, gloire à notre Dieu, mais, parfois on parle, on dit le mec qui tue. Mais ça, ce n'est pas un mec qui tue. Ça, c'est le mec qui fait vivre. Mais vous avez été lavé, gloire à Dieu. Vous avez été sanctifié. Voilà ce qui fait de vous l'Église. Voilà une Église, voilà un chrétien. Vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. J'ai d'autres parallèles encore à vous faire voir sur lesquels je voudrais attirer votre attention. En termes de vie passée et vie nouvelle, de vie ancienne et vie nouvelle, j'y reviendrai si le Seigneur me prête vie mercredi prochain, Dieu voulant. Alors, soyez bénis. Si vous avez des questions, je vais peut-être les entendre rapidement. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Laissez-moi arrêter l'enregistrement un moment, s'il vous plaît.